She's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as fresh as the bright blue sky.
Du coup, cet été, j'ai coché une case sur ma to-do list de ma vie. Cet été, j'ai fait le chemin de Compostelle, qui était un truc que j'avais envie de faire depuis super longtemps. Et quand on me demande de raconter ce voyage, je sais jamais trop par où commencer, tellement l'expérience était complète, vivante, je sais pas comment expliquer ça. Pendant tout mon voyage, pendant les 800 km, pendant le 1 mois et 5 jours de chemin, j'ai écrit tous les jours des notes sur un petit carnet. Je vous propose de raconter mon récit à partir de ça. Je ne l'ai pas réouvert depuis la fin du voyage, donc on va voir ça ensemble. Ce petit carnet, il est un peu moche, je trouve. C'est mon copain qui me l'a offert juste avant de partir. Au début, il y a un petit mot justement d'Olivier qui avait écrit un truc pour m'encourager. J'aurais voulu le choisir moi-même en fait. J'aurais voulu prendre un petit carnet où il y ait des pages blanches pour pouvoir dessiner. J'aurais voulu prendre un joli qui me plaise juste pour me donner envie d'écrire dedans. Et aussi j'aurais voulu pouvoir le peser avant parce que dans un sac à dos pour partir comme ça en marche pendant un mois, pour une femme il faut que le sac pèse moins de 10% du poids de son corps. Donc quand on pèse que 50 kilos, c'est pas grand chose. Mais bon, c'est celui-là que j'ai emmené. Et du coup, tous les jours, j'ai pris des petites notes dedans. Je suis partie le 2 juillet de la gare Bordeaux-Saint-Jean. C'était pendant la période où il y avait plein de grèves avec les trains. Et du coup, en plus de tout le stress de me dire « Ok, dans quoi je me lance? Qu'est-ce que je fais ?» Il y avait ce stress-là. Est-ce que je vais avoir mon train? Est-ce que tout va bien se passer sur le trajet et tout? J'avais passé un mois avant de préparation. De tempérament, je suis quelqu'un qui fait des milliards de choses. Et là, ça n'avait pas manqué. Et du coup... J'avais tellement de choses à faire que j'ai même pas trop pris le temps de préparer ça. J'avais prévu de mettre mes chaussures de marche tous les jours pour les faire. J'avais prévu d'aller faire des randos au moins une fois par semaine pour commencer à m'entraîner avec mon sac à dos, etc. J'avais prévu de vraiment organiser tout mon sac en le pesant, en pesant chaque élément, etc. Il y a certaines choses que j'ai pu faire pendant ce mois-là et d'autres non. Et du coup, le jour J, j'étais très stressée de pas avoir réussi à avoir accompli toute ma préparation. Du coup, comme c'était les grèves, il y avait beaucoup de monde dans le train et il n'y avait plus de place assise dans les sièges, c'était un TER. Et du coup, j'étais assise par terre pendant 2 heures et j'avais la musique dans les oreilles. Et comme beaucoup de moments comme ça où on est en train de réfléchir, où il y a une émotion particulière, on a l'impression que toutes les musiques, elles nous parlent et que toutes les paroles, ça veut dire quelque chose pile à ce moment-là. Miss it for the rest of my days. They never feel the sand beneath my naked feet. You'll never hear the sound of breaking waves. I'd rather see the ocean once in a lifetime. I miss it for the rest of my days. They never feel the sand beneath my naked feet. I never hear the sound of breaking waves. Ensuite, arrivée à Bayonne, j'ai pris un autre bus pour aller à Saint-Jean-Pied-de-Port, qui était mon point de départ du chemin. Et dans ce bus, il y avait encore une fois beaucoup de monde, toutes les places étaient prises. Et il y a un Allemand qui s'est assis à côté de moi, on a commencé à parler. Et la question c'était « Ah, mais pourquoi t'es dans ce bus? Tu vas où ?» etc. Sauf que, évidemment, moi j'avais pas encore compris, mais toutes les personnes dans le bus, c'était que des gens qui allaient à Saint-Jean-Pied-de-Port, et c'était que des gens qui allaient commencer le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ça, je l'ai compris en arrivant à Saint-Jean-Pied-de-Port, quand j'ai vu tous les sacs à dos qui avaient rempli la soute en arrivant. Cet Allemand, il s'appelait Bernd, et on a pas mal parlé ensemble sur tout le trajet du bus, sur pourquoi il le faisait, pourquoi moi je le faisais. La réponse que je lui avais donnée, c'était pour me prouver quelque chose. J'avais pas trop réfléchi à cette réponse avant, c'était la première qui était venue. Et en fait, sur le trajet, plus je comprenais que tous ces gens faisaient la même chose que moi, plus je me disais, mais mon Dieu, où est-ce que je vais dormir si tous ces gens arrivent le même jour que moi, à la même heure que moi, et qu'on arrive dans un petit village, je sais pas, je savais pas le nombre d'auberges, je savais pas comment ça allait se passer, j'avais rien réservé. Donc j'ai commencé à stresser, j'avais un problème de carte bleue, j'ai envoyé un message à ma mère pour qu'elle réserve pour moi, etc. Donc elle a réservé un lit, j'étais rassurée. Et voilà, je suis arrivée donc sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, tout est mis en place pour que la question logistique soit plus simple, c'est-à-dire qu'il y a des auberges très régulièrement. Avant de partir, on commande une crédentiale. C'est le passeport du pèlerin, en fait. C'est un petit truc qui permet, du coup, en arrivant dans les auberges, d'avoir un prix préférentiel et de pouvoir y accéder quand c'est des auberges juste pour les pèlerins. Et du coup, là, c'était le cas. En arrivant à Saint-Jean-Pied-de-Port, j'avais réservé un lit dans une de ces auberges. Ça ne sera pas toujours possible de réserver, mais bon, là, c'était le cas. Et peut-être que c'était plus rassurant pour le premier jour. À l'arrivée de l'auberge, il y avait un hospitalier, c'est les gens qui s'occupent de ces auberges-là, on les appelle comme ça, qui m'a accueilli. Et il était très marrant, il faisait des grands discours sur comment ça allait être, et il essayait vraiment de nous préparer, de nous donner un peu des mantras qu'il espérait peut-être, qui nous guideraient sur le chemin ensuite. Et une des choses qu'il avait dit, c'était rigolo, c'est « vous n'avez rien à prouver, ni aux autres, et encore moins à vous-même ». Ça faisait un peu écho à ce que j'avais dit dans le bus à l'Allemand. Et ensuite, là, dans mon petit carnet, la dernière chose que j'écris, c'est savoir lâcher le contrôle. En fait, il faut savoir que pendant la première semaine à peu près, ou les premiers 10 jours, je ne sais plus, j'écrivais tout le temps à la fin, comme ça, de mes petites notes de la journée, un truc que j'avais pensé comprendre pendant la journée et que je me disais, ben, ça sera un truc qu'il faudra peut-être que j'apprenne sur le chemin. Et donc là, c'était la première chose, lâcher le contrôle. Donc la nuit se passe dans cette merveilleuse auberge, je mange souvent, enfin le repas du soir, le petit déjeuner avec Bernd, l'ami allemand que j'avais rencontré dans le bus, qui par hasard était aussi dans la même auberge que moi, c'est rigolo. Il y aura beaucoup de hasards comme ça pendant tout le voyage, donc j'aime bien les noter. Donc le lendemain matin, il est l'heure de partir. En fait, tous les jours, je mettais en haut de ma page, le point de départ et le point d'arrivée avec le nombre de kilomètres faits dans la journée et le nombre d'heures de marche. Donc là, cette journée-là, c'était 26 kilomètres. Ça m'a pris 8 heures entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Roncevaux. Donc j'ai dû partir très tôt le matin, je ne sais plus, là c'est pas marqué, peut-être à 5 heures ou quelque chose comme ça. De toute manière, tout le monde part à cette heure-là, donc ce n'est pas dérangeant du tout. Et en plus, si toi tu ne te lèves pas, tu vas forcément être réveillé par les autres. C'était en pleine montagne, on enchaînait les montées et les descentes et c'était extrêmement fatigant du coup pour une première quand on n'est pas habitué à marcher, quand on n'est pas habitué à faire tout ça. J'ai même écrit « Putain, ils font pas les choses à moitié sur le relief ». Dès les premières minutes, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelait Juan, qui était français, qui avait entre 40 et 50 ans, je dirais, et qui sera ensuite, pareil, un compagnon de route que je vais recroiser régulièrement. C'était un monsieur qui est parti de Metz. Et du coup, là, il était arrivé à la moitié de son voyage à Saint-Jean-Pied-de-Port, et lui, il continuait encore jusqu'à Compostelle, donc ça faisait déjà bien un mois et demi qu'il était parti. Donc lui, il était déjà rodé sur la marche, donc il me donnait ses petits conseils au fur et à mesure. Ensuite, arrivé plus haut dans la montagne, j'ai croisé un berger qui s'appelait Patrick. Et il était là avec ses chiens et en fait, il saluait tous les pèlerins qui passaient. Et du coup, il avait une petite cabane d'alpage et il proposait aux pèlerins qui arrivaient là tard la nuit de dormir là plutôt que de continuer encore sur une dizaine de kilomètres pour ceux qui étaient épuisés. Donc il racontait toutes ces anecdotes à qui voulait bien l'entendre. Il y avait beaucoup de brouillard cette journée-là, du coup ça donnait une espèce d'atmosphère très spéciale en fait. On avait l'impression d'être un peu dans une série ou dans un paysage de Nouvelle-Zélande ou ce genre de choses, très vide, juste le brouillard, la montagne, le silence et tout ça. Bien évidemment, il y avait beaucoup de monde du coup sur le chemin. Tous les gens que j'avais vus la veille dans le bus, c'était un seul bus et on était dans une seule auberge. Et il faut multiplier ça par une vingtaine, on va dire. Donc il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui marchaient. Et donc évidemment, le point d'arrivée, Roncevaux, il y avait aussi beaucoup, beaucoup de gens dans l'auberge. Il y avait une seule auberge parce que c'est un petit village où il y avait trois maisons. Et dans cette auberge, c'était un peu l'usine. Il y avait, je sais pas moi, 200 lits, quelque chose comme ça. C'était très moderne, très organisé, mais du coup pas très convivial ou familial. Et du coup, c'est là où j'ai un peu compris que, alors qu'il y avait tout ce monde, moi j'avais fait ce chemin toute seule. Et c'est un peu là où je me suis dit, bon bah maintenant, faut prendre les choses en main toute seule et tu vas devenir ton unique repère, alors que dans ma vie, j'ai souvent tendance à utiliser quelqu'un comme repère et de faire les choses en fonction.